Il est très précisément midi. Vous êtes à l'écoute de Campus le mercredi entre 12h et 13h. C'est un magazine qui est, dans lequel aujourd'hui on va parler d'économie et plus particulièrement d'un ouvrage. Son auteur est notre invité. Il s'appelle Benoît Boussemard. Tout ça dans quelques instants. Restez fidèles au 106,6 de Radio Campus.
Ils sortent toujours la tête pleine du ventre d'une fac de Sciences Po pour conseiller quelques bédaines élus pour un bilan zéro. Ces conseillers seront conseillés pour être élevés comme des fruits mûrs près des puissants qui tordent les purs pour en faire de la purée. Alors ils se laisseront choir ou ils mangeront la purée, seront fascinés par le pouvoir et pourront plus s'en détacher. Ils séduiront comme ils le peuvent ou ils séduiront ceux qu'ils peuvent. Ils le feront comme faire valoir, ils feront valoir comme député. Politicien, ce n'est souvent qu'une ambition. Nous, pauvres chiens, on vote toujours comme des crayons.
Voilà, petite introduction donc à ce magazine consacré à l'économie. Et bien sûr, vous vous en doutez si vous êtes fidèle de Campus. On va parler économie peut-être dans sur d'autres pistes que nos médias habituels le font. Alors, il y a avec nous André, qu'on connaît pour sa participation au magazine du mensuel de la Libre Pensée. Il y a Marc, qu'on connaît pour ses interventions poétiques autour de Léo Ferré. Et puis, bien sûr, je le disais, il y a Benoît Boussemard, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Grande fortune, banquier, politicien, point de suspension ». Je rajoute dès maintenant « médias ». Titré « La collusion des pouvoirs face à la crise ». Bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Bonjour. C'est pas la première fois que tu commets un ouvrage autour de ce thème, les grandes fortunes, les banquiers, les politiciens, les médias. On t'a connu aussi pour un intérêt particulier à une grande fortune régionale, une grande famille régionale qu'on appelle les Mulliez. Mm-hmm. Tu étais enseignant en économie d'abord ici sur notre campus à l'Université Lille 1. Et ensuite à l'université de Nanterre, docteur d'état en sciences économie, et accessoirement donc auteur. D'où vient ce goût, quand on est économiste, pour écrire de tels bouquins?
Bah, je crois que le problème, il est tout simple, c'est qu'on s'aperçoit lorsqu'on lit l'économie qu'il y a une économie avec une pensée dominante. Et cette pensée dominante, qui est partagée par 90% des économistes, elle ne traduit absolument pas un certain nombre de réalités, qui sont plutôt les réalités que vivent les gens.
Et ça, quand on fait des études d'économie ou quand on est enseignant en économie, on s'en rend compte ?
On s'en rend compte bien, puisque les trois quarts des matières que l'on enseigne sont des matières qui sont très mathématisées, où l'on fait des beaux modèles qui conduisent à des crises, qui conduisent à des spéculations, qui conduisent aux traders, qui conduisent à des tas de choses comme ça.
La situation actuelle.
Exactement. Et donc, on reforme et on reformate constamment des gens qui sont dans la logique du système capitaliste et de son exploitation.
Alors, cet ouvrage que tu as commis, c'est un gros pavé, hein, il y a, on peut le dire, pas loin de 500 pages. En gros, je résume, j'essaye de synthétiser avant d'entrer dans le détail. Il y a une première partie qui est consacrée aux grandes fortunes, avec une liste de noms. Ça m'a fait assez penser aux 200 familles d'il y a quelques années. Bien sûr, une liste, mais aussi avec, dans chaque cas, des analyses. Ensuite, une deuxième grande partie sur ce que tu as nommé les relations incestueuses entre les différents pouvoirs, la finance, la politique et les médias. Vient ensuite une troisième partie sur les vases communicants, hein, entre la fortune des uns qui fait la pauvreté des autres, hein, oui. Dont on va essayer de parler un petit peu. Moi, j'ai un petit peu senti un aspect sous-jacent de la lutte des classes qui reviendrait. Et une quatrième partie fort intéressante, mais qui a dû demander un boulot énorme, c'est un des organigrammes autour de ces 12 ou 13 grandes familles qu'on retrouve dans cet ouvrage. Alors, une première question aussi, d'abord la méthode. Comment on fait pour... parce que c'est un boulot extraordinaire, c'est du Sherlock Holmes de l'économiste.
Alors, la méthode est exactement la même que celle que j'ai utilisée pour faire l'étude du groupe Mulliez. J'ai appris beaucoup de choses en faisant ce travail sur la fortune des Mullier. Et ce qui m'intéressait, c'était, je le dis au début de l'ouvrage, l'analyse de la valeur. On a beaucoup parlé de valeur, de valeur travail, de vrai travail, de faux travail, etc.
On en a parlé.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de savoir un petit peu comment on évaluait ces fortunes et comment c'était fait. Chaque année, il y a Challenge qui publie un état des 500 fortunes.
Challenge, c'est une revue, on va dire, de référence.
C'est une revue, c'est la revue de référence avec Forbes pour la partie mondiale qui reprend pratiquement ces analyses-là.
Ça appartient à qui, Challenge?
Challenge appartient au groupe du Nouvel Observateur.
C'est l'occasion de le dire.
Voilà.
On en parlera beaucoup, hein, tout au long.
Oui, non, mais on va en parler parce qu'on retrouve toujours les mêmes de toute façon, donc que ce soit les médias ou d'autres.
Donc alors ce classement de Challenge ne te convenait pas
ou... Ah ben il ne me convenait pas du tout, parce que d'une part, la famille Mullier n'était pas représentée parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations. Ensuite, quand on parlait d'autres grandes fortunes comme Arnaud, qui est une fortune d'origine régionale aussi, il ne faut pas l'oublier.
Ferré-Savinel.
Ferré-Savinel, bien évidemment, Ferrinet, tout ça. Donc il y a d'autres grosses fortunes qui sont régionales. Et donc quand on regardait un petit peu les évaluations qui étaient faites, on voyait qu'il y avait au moins trois catégorie d'erreurs fondamentales. Il y avait une première catégorie d'erreurs qui était une catégorie d'erreurs sur la véritable possession des sociétés qui étaient contrôlées par ces grandes fortunes. Je prends un exemple tout simple. Challenge donnait comme, par exemple pour Arnaud, le pourcentage que la famille Arnaud théoriquement possédait sur LVMH. Ça donne à peu près en gros 47%.
Donc là, on parle en pourcentage...
Du capital.
Du capital.
Donc, il faisait une petite multiplication toute simple entre la valeur des titres et le nombre d'actions qui correspondent à ces 47. Il disait, voilà la fortune
de monsieur
Arnaud. Or, quand on fait une analyse précise, et c'est pour ça qu'il y a une analyse précise de tous les groupes, du même style que celle que j'avais faite pour le groupe Mullier, on s'aperçoit que le groupe LVMH est possédé par plusieurs sociétés en cascade, et que ces sociétés-là ne possèdent pas toutes 100% de la suivante. Comme par exemple, LVMH est contrôlé notamment par Dior, mais Dior n'est pas contrôlé à 100% par le groupe Arnaud. Donc, l'année dernière, pour la première fois, et après que j'ai râlé plusieurs fois et que je l'ai dit publiquement, Challenge a modifié son calcul et il l'a annoncé en disant « Je fais maintenant ma petite multiplication entre le pourcentage de Dior et le pourcentage de LVMH et je trouve une valeur différente de ce qu'il y avait avant ».
Mais là, il faut déjà être spécialiste pour déjà faire ce travail de fourmi.
Alors, ce travail de fourmi suppose effectivement de bonnes informations. Alors, les informations sont publiques quand on veut les chercher. Mais il n'y a pas beaucoup d'économistes qui les cherchent parce que ce qui les intéresse, c'est faire des beaux modèles, des beaux articles et qui sont dans les revues spécialisées avec beaucoup d'étoiles pour le critère CNRS.
Et donc, je vous ai entendu marcher dans le sens du vent.
Voilà. Donc moi, j'ai jamais fait ça. Et donc, bah, je suis toujours resté maître de conf, hein, mais c'est pas grave. Je me porte très bien pour ça. Hein, donc
le service public, ça a du bon, quand même.
Ouais, mais bon, on a le droit d'être un peu marxiste. Et donc, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et dans ces conditions-là, on peut rechercher assez facilement avec des sources officielles, Infogref, les données de la BNB en Belgique, les données qu'on peut récupérer auprès du Luxembourg. Quand on va sur les sites du Luxembourg, on a des informations, on a un certain nombre d'informations. Alors très très restreintes, c'est clair, mais il suffit de gratter, on trouve. Même chose pour les Pays-Bas. Quand on parle de paradis fiscaux, dans le livre je l'évoque plusieurs fois, les paradis fiscaux ils sont pas loin. Ils sont limitrophes à la France. La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, on garde ce qu'on ne paye pas comme plus-value, comme droit de succession, mais tout est là. C'est d'ailleurs pour ça que les valises, elles ne vont pas qu'en Suisse.
Hein. J'allais dire, tu oublies la Suisse.
Bah oui. Donc,
c'est loin.
C'est assez loin, mais on retrouve toujours les mêmes dans ce genre de choses. Quoi. Alors, donc il faut faire ce premier calcul est important parce que c'est une première source d'erreur. Alors, il y a une deuxième source d'erreur qui est aussi importante, c'est que tous les calculs de Challenge, etc., ne tiennent pas compte de l'endettement qu'il a fallu pour acquérir le pourcentage en question dans la cascade. C'est-à-dire que les holdings tout en haut sont souvent endettés. C'est comme si vous achetez une maison et que vous l'achetez totalement en crédit. C'est quoi votre fortune ? C'est la valeur de la maison ou la valeur de la maison moins le crédit ? Toujours sur Arnaud. Un tout petit exemple, mais qui vaut son pesant de cacahuètes. Quand vous regardez le rachat par Arnaud et Colony du groupe Carrefour, ils ont acheté le groupe Carrefour, la première grosse partie du pourcentage de contrôle, pour 3,8 milliards d'euros. 3,8 milliards. Ils l'ont acheté avec quoi ? Totalement à crédit. Totalement à crédit. À des banques.
À des banques, d'accord.
Les banques sont prêtes à prêter de l'argent à des hauteurs considérables. Après, elles disent qu'il y a de la spéculation, etc. Mais... qu'est-ce qu'elles font ? Elles prêtent constamment à des gens comme ça. Qui a fait l'investissement? C'est le holding personnel de Bernard Arnault. Les titres, il les a achetés à 52 euros pièce. Ces titres valent maintenant 15 euros. Il a laissé, il a perdu sa culotte à hauteur de 1,6 milliard.
J'allais dire, après, ça semble être une mauvaise opération, ça
pour lui. Ah ben, c'est pour lui une très très mauvaise opération. Heureusement qu'il y a eu l'opération sur Hermès derrière, pour récupérer de la valeur. Mais Hermès n'est pas contrôlé par Arnault, mais par LVMH. Donc c'est pas chez Arnault que la plus-value d'Hermès se trouve, c'est chez LVMH. Et les petits actionnaires, s'ils sont pas contents, devraient regarder de très très près lors des prochaines assemblées générales ce qui va se passer là.
Alors sans être un grand spécialiste, je crois commencer à comprendre qu'en fait tout ça c'est question de combine, magouille, mais tout ça c'est légal.
Ah, tout est légal. Par exemple, dans l'affaire Hermès, Arnault il a utilisé 3 sociétés qui étaient au Panama. Bon, ces sociétés, il vient de les remettre en France. Et on a eu une très très belle opération qui a consisté à faire un changement de statut des sociétés panaméennes qui redevenaient des sociétés françaises. Entre deux, les plus-values, ben, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Ben, si, on sait qu'elles sont devenues. Elles sont déjà en partie dans les valeurs de LVMH.
Avant de continuer en détail, parce que là, on va essayer de lister un peu, si, dans la mesure du temps disponible, quelques exemples que tu as commencé à illustrer. Là. Ton objectif, la raison de ce bouquin, c'est de la pédagogie, c'est du militantisme, c'est un intérêt public.
Je pense que c'est d'intérêt public, parce que quand on regarde de près tous ces gens-là qui se vantent d'avoir des fortunes immenses et qui font la pluie et le beau temps, qui en plus disent ils créent des emplois, quand ils disent en plus ils versent des salaires, mais on rêve quoi. Toujours pour le prendre le groupe Arnault, il a combien d'emplois en France? J'ai fait le calcul sur 7 ans, il a augmenté l'emploi en France de 4 personnes. De 4 personnes sur 10 ans. Entre 7 et 10 ans. 4 personnes de plus.
Là, tu donnes le delta. Les emplois, sur un groupe de combien?
Sur un groupe de 150 000 personnes.
Donc on est passé de 150 000 à 150 000 et 4.
Quand il dit qu'il crée des emplois en France, c'est une vraie blague, quoi. Même chose pour les autres. Les 3/4 des autres fortunes, donc je parle de Dreyfus, je parle de l'Adriette de la Charrière, l'Adriette de la Charrière, autre cas mondial.
Hermès.
L'Adriette de la Charrière, c'est le groupe Fitch.
C'est le patron de l'agence de notation.
De l'agence de notation Fitch qui note les États.
Allez, on revient dans le détail. Vas-y, parle-nous donc un peu de Saladré de la Charrière, qui est un nom moins connu justement que Arnault.
Beaucoup moins connu, mais qui vaut aussi le détour. Puisque, bon, le choix que j'avais fait, c'était justement pour bien montrer que tous les gens qui sont dans ces classements, ils se connaissent tous plus ou moins. Ils sont plus ou moins tous imbriqués les uns avec les autres.
C'est bien expliqué, hein, ça dont on...
Ils se tiennent par la barbichette, c'est un des titres que j'ai utilisé, je me tiens, tu te tiens par la barbichette. Et donc, quand on regarde de près, ils se connaissent tous, ils échangent des titres, ils sont liés avec l'État, avec des tas de choses. Par exemple, le groupe Dassault, c'est clair, et c'est les Rafales. Il y a Dassault System aussi derrière, il y a Falcon. Bon, quand on regarde un petit peu autres groupes importants comme Bouygues, Bouygues, il vient de se racheter une partie d'Alstom à la demande de l'État. C'est quand même incroyable, sous Sarkozy. Bon, quand on sait ce qui se passe, ils contrôlent toute la presse, ils contrôlent également tous les instituts de sondage, pratiquement tous.
Ah ça, on va voir tout à l'heure en détail comment ça s'articule, tout ça, c'est impressionnant. On le sait, mais c'est bien de le repréciser.
Donc, quand on fait les organigrammes, un petit peu à la fois, on s'aperçoit que ces gens-là contrôlent des pans entiers de l'économie, que ce sont des groupes particulièrement internationalisés, et qu'ils, bien entendu, accumulent des fortunes à une vitesse énorme, sans état d'âme, c'est-à-dire que...
Sans morale non plus.
La morale n'a rien à faire avec l'économie, moi je l'ai répété toujours à mes étudiants.
Ça c'est une constante.
On fait du business, on fait pas de la morale, d'accord.
Je ne connais pas un capitaliste
conséquent qui fasse de la morale, tout ça c'est bon pour...
Monsieur Gérard Mulier, lors de ses forums, devant les caméras, il dit...
On est bien d'accord, mais ça c'est du baratin.
L'argent ne fait pas le bonheur de l'homme.
C'est tout à fait, mais il devrait donner l'ensemble de sa fortune ensuite à l'ensemble de ses salariés en distribuant tous les titres.
On va peut-être le dire en pratique.
À ses salariés, pourquoi pas
Fais comme je dis, mais fais pas comme je veux.
Non, mais c'est du rêve.
Total.
Vu que... À moins qu'on fasse une petite respiration, tiens, allez, quelques minutes pour reprendre ton souffle, là, parce que je vois que tu es passionné, comme nous, d'ailleurs, de ce sujet. Et on se retrouve après, donc, pour parler de cet ouvrage qui s'intitule « La collusion des pouvoirs face à la crise ». Notre invité, c'est Benoît Boussemard. Ce livre paraît aux éditions Est un puits, et dans quelques instants, on retrouve cette collusion, on parle de la collusion entre les pouvoirs, les banquiers, les grandes fortunes, les politiciens et bien sûr les médias.
Il y a de ces écoles de la vie où l'on ne finit plus d'apprendre. La séduction, le daiquiri, comment s'impliquer pour surprendre. Un gros monstre naît aussi facilement qu'un enfant. Décision au sommet, quelques principes et manque de temps. Il y a toujours un détail qui nous échappe quand on est grand. Une virgule se trompe dans un bail et on massacre des tas de gens. La bonne idée devient un commerce, un grand empire, une carapace contre la vue de la misère qu'un don de charité efface. Bon businessman, ce n'est souvent qu'une impression. Nous pauvres chiens, on est toujours leurs petits champs. Il n'y en a pas un qui ne vaille pas la peine qu'on s'arrête à son cas. Anciens gauchistes convaincus, leurs culottes dépassent vraiment plus. Ils sont les plus grands collabos de l'ordre établi qui existe sous prétexte qu'ils sont impartiaux. C'est le changement qu'ils honnissent. Ils traiteront toujours de tout, restant les spécialistes de rien. Ils sont les appendices malades d'un organisme politicien. C'est leur chèque de paye qu'ils épousent, jamais le pourquoi du comment. Rapport de fait et bill de news, c'est pas de l'info, c'est un show qu'on vend. Bon journaliste, ce n'est souvent qu'une intention. Nos pauvres chiens, on avale tout sous perfusion. Par lubie ou par conviction, ils veulent revêtir l'uniforme. Ils sont bourrés de bonnes intentions qui se répéteront pour la forme. On ne dort bien que dans l'habitude, alors habituons-les aux ordres. Ils s'en feront des certitudes, alambiqués pour pas démordre. La justice sera leur grande sœur, le criminel sera toujours noir, le militant agitateur, l'esprit prend des chemins bizarres. Ils seront les chiens de garde de la loi, parfois comme leur père, leur grand-père, mais ils taperont toujours leurs frères si on leur en donne l'ordre une fois. Corps policier, ce n'est souvent qu'une érection. Nous pauvres chiennes, on a toujours peur comme des cons. L'érection, que l'intention joue d'impression. Y'a plus de place que pour égo, myosotis et coquelicot. On lève des monuments aux morts et on laisse moisir les vivants. Si la plaie bat tellement trop tard, c'est peut-être qu'elle croit les puissants. Qu'elle se taire, qu'elle se gèle, qu'elle célèbre ce qu'elle veut, plus rien de trop beau l'interpelle. Elle gardera la famille qu'elle veut. Quand l'ambition vit l'érection, que l'intention joue d'impression, plus de projets, plus de lendemain, chacun ses parts et son lapin. La vérité, ce n'est qu'un flou qui ne rime à rien. Nous pauvres fous, on ne croit toujours que comme des chiens. La liberté, ce n'est qu'un rêve qui ne rime à rien. Nous pauvres fous, on ne croit toujours que comme des chiens. Pauvres chiens. Pauvres chiens.
Pauvre chien, c'est une chanson que tu nous as amenée là.
Oui, une chanson d'un Canadien, Jean-François Lessard, L-E-2-S-A-R-D. Bon, en ce moment au Canada, connectez-vous sur le site de Radio-Canada, canada.ca. Vous verrez les informations concernant la grève des étudiants contre la hausse des frais de scolarité. Donc, ça fait des mois que ça dure.
Et curieusement, nos médias n'en parlent pas. Ça nous permettra de nous brancher justement sur le rôle de ces chiens de garde qui sont tout à fait dans la collusion des pouvoirs, grandes fortunes, banquiers, politiciens et médias. C'est le sujet de ce magazine aujourd'hui avec l'auteur, donc Benoît Boussemard, qui a écrit cet ouvrage. Vous pouvez trouver aux éditions Étampus. On a commencé donc par cette première partie, cette grande première partie de ce bouquin sur les raisons d'être. Deuxième grande partie, c'est ce listing des 200 familles, non, parce que moi je suis resté sur, c'est les 12 familles. Alors les 12 familles, en gros, je vais très vite, il y a Bétancourt, il y a Lagardère, il y a Ladré de la Charrière, il y a Bolloré, Dreyfus, Dassault, Naouri, Hermès, Arnaud, Pinault et le groupe Mullier. Alors, le choix de ce top 50, et enfin là, de top 12.
Albert Frère en Belgique.
Albert Frère en Belgique, exactement.
Qui est un ami intime, personnel.
En Belgique, non. En France, pour l'instant.
Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas, avec les socialistes qui viennent peut-être au pouvoir bientôt, on va assister à...
Et où va-t-il passer la frontière ?
Oui.
À Étampuis ?
Ça devrait être...
Cette émission est enregistrée en mai 2012. Nous attendrons encore les résultats.
Un ouvrage à ce sujet.
Tout à fait.
Et donc, prémonitoire.
Donc, la page 330 donne le résultat des élections. Hein, pour ceux... J'avais écrit avant le premier tour. Hein, donc, je ne le donnerai pas. C'est un secret pour l'instant.
Alors, pourquoi ce top 50
Ce top 50, il avait... Ce top 12, enfin, il y en a exactement 14 en tout.
Top 14.
Donc, le choix, il a été fait sur deux critères, essentiellement. Le critère de la fortune. C'est-à-dire que j'ai pris...
En valeur, en somme.
Ceux qui étaient dans le top 10 des grandes fortunes publiées par Challenge. Et ensuite, j'ai pris des gens que l'on trouvait en relation avec les différents types de pouvoirs et surtout qui avaient des comportements qui étaient des comportements prédateurs par rapport à l'économie. Je m'explique. Quand je prends un exemple comme Naouri. Naouri, pas beaucoup de gens le connaissent, mais c'est celui qui contrôle le groupe Casino.
Bien connu pour ses conditions de travail.
C'est celui qui contrôle également le groupe GoSport. Il a commencé comme rien du tout. Il a commencé pas tout à fait comme rien du tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très doué, avec de multiples diplômes en mathématiques, etc., en littéraire, et qui était effectivement conseiller de Bérégovoy, qui était son directeur de cabinet. Et c'est lui qui a mené toute la libéralisation financière de l'économie française.
À quelle époque ?
À l'époque de 1980-1987. Donc après après le gouvernement Mauroy.
Donc sous un régime socialiste.
Tout à fait sous le régime socialiste, bien évidemment. Et il a été mis un petit peu au placard quand il y a eu l'intermède Chirac. Et donc il a utilisé ce placard pour partir à la banque Rothschild.
Sans complexe, on va donc du privé au public, comme ça, en France.
Le pantouflage est une pratique assez commune en France. Quand on regarde un petit peu la liste de tous les gens que j'ai mis dans le bouquin, les relations entre les politiques et puis les conseils d'administration de ces groupes, etc., on n'est pas surpris. Madame Chirac est, par exemple, dans le groupe Arnaud. Madame Bétancourt, qui avait...
LVMH, elle a fait parler d'elle, il n'y a pas tellement longtemps.
Il n'y a pas tellement longtemps. Quand on regarde la femme de l'ancien ministre, Wörth, qui a eu des soucis et qui était chez Bétancourt, on la retrouve maintenant chez Hermès. Donc,
et elle travaillait chez Climène
Madame qui était la filiale qui gérait Tétis, qui était la filiale qui gérait la fortune de Madame Bétancourt.
Là, donc, on commence à voir ces entre-là.
Tout à fait. On est dans un système où tout le monde se connaît, tout le monde entretient des relations, etc. Il y a d'ailleurs des cercles particuliers, j'y reviendrai après. Et donc, le Naouri en question a commencé sa vie avec une toute petite fortune. Rien du tout. Il a commencé avec 300 000 francs.
Et 300 000 francs.
300 000 francs, de l'époque.
Ça fait 50 000 euros.
Ça fait rien du tout. Et donc, moi, je me suis amusé à faire un tout petit calcul.
C'est même pas le prix d'une maison, à l'époque.
C'était assez simple. Et puis,
une petite maison. Une maison de pauvre est impure.
Donc.
Non, mais c'est
très pauvre.
Très pauvre. Donc, il a commencé à 38 000 euros. Quand on actualise la valeur. 38 000 euros.
38 000 euros.
Rien du tout. Actuellement, quand on regarde sa mise. Il est à combien ? Il est à 883 millions d'euros en 2010.
Et d'où vient cette multiplication des pains ?
Ça c'est simple. Il y a une première technique qui est la technique qu'on appelle des poulies bretonnes ou des poupées russes. Vous achetez une première société avec les tout petits sous, là, les 38 euros. Et cette société achète une deuxième société à 50% plus un titre et elle peut donc doubler la société. Donc elle contrôle une société qui fait 76 000 euros. La troisième fait la même chose avec une quatrième, etc. Et à la fin, vous contrôlerez très rapidement un gros paquet d'actions, et c'est comme ça qu'il a acquis.
Et tout ça tout à fait légalement, il faut le préciser.
Tout à fait légalement. Sauf que si vous allez voir votre banquier, et vous lui dites, je vais faire un petit montage financier, etc., avec toutes ces sociétés-là, et puis j'ai pas un rond, vous allez vous apercevoir rapidement que votre banquier va
que la règle du jeu n'est pas la même.
Sur place. La règle du jeu n'est pas la même, parce que bien entendu, quand vous êtes passé par Rothschild, et que vous avez dans vos amis qui participent à la société qui crée casino, etc., c'est qui qu'on retrouve dedans ? On retrouve l'Adriette de la Charrière. On retrouve également Bolloré. On retrouve des amis qui sont bien en place avec tous les systèmes financiers qui sont les grands banquiers.
Tout ça, ça tourne en circuit fermé.
C'est un circuit tout à fait fermé. Donc on a une articulation qui se fait entre, d'un côté, le système financier, les banques, qu'elles soient privées à l'époque ou publiques, rien ne change. Hein. Lorsqu'on a fait une petite analyse ici sur la partie Crédit Lyonnais, j'ai voulu revenir un petit peu dans le bouquin sur le scandale du Crédit Lyonnais, parce qu'on a beaucoup critiqué Bernard Tapie. C'est un malheureux à côté de ce que les autres, ils ont pillé au...
Il faisait peut-être pas partie du cercle.
Non, il faisait pas partie totalement du cercle.
Une des raisons...
Il avait bien gagné de l'argent, mais comme les autres d'ailleurs, avec les mêmes méthodes, mais il faisait pas partie du cercle. Et quand on regarde comment était liquidé l'ensemble des participations qui valaient très cher du Crédit Lyonnais par l'Institut de défaisance, sous Balladur notamment, on s'aperçoit que c'est un pur scandale. Ça a bénéficié à Pinault, ça a bénéficié à Bolloré, ça a bénéficié à l'Adrien de la Charrière. Je mets les sommes vérifiables. De toute façon, c'est dans leur compte, mais il faut les retrouver, hein, parce qu'il faut aller faire une vraie enquête là auprès du tribunal de commerce de Paris, récupérer les données qui sont souvent... très difficile à avoir, il y en a que je n'ai pas pu récupérer. Comme par hasard, c'est toujours les années qui manquent qui sont les plus intéressantes.
Et concrètement, comment on retrouve toutes ces infos ? Par le net, en allant au fisc, en allant aux organismes
financiers ? Il faut commander directement à Infogreffe les données. Alors d'accord. Bien entendu, quand on a
Infogreffe,
une première
c'est donnée, une institution, ça.
Infogreffe, c'est une institution privée. C'est privé, Infogreffe, hein, c'est quelque chose qui est payant. Donc moi, à chaque fois que je veux une information, je paye pour l'avoir. Mais c'est important parce que ça garde mon indépendance.
Mais c'est transparent, c'est public.
C'est public,
c'est privé au sens fonctionnement.
C'est privé au sens.
Mais les informations.
Les informations sont des informations publiques, donc je peux les utiliser.
Donc t'as aucun problème à diffuser tout ça.
Absolument aucun problème. D'ailleurs, je les diffuse.
Ni droit d'auteur, ni.
Pas de droit d'auteur, rien du tout. De toute façon, c'est des comptes qui sont publiés chaque année. Ils sont d'accord. Notamment obligés de le faire au niveau de l'autorité des marchés
tout
financiers.
Tout ça pour, petite parenthèse, pour signifier que tous les chiffres qu'on retrouve dans ce bouquin sont des chiffres tout à fait vérifiables et absolument.
Vérifiables, c'est pour ça qu'il y a une annexe, effectivement, et je tiens beaucoup à mettre ses annexes. Alors on dit que c'est barbant, c'est vrai. Mais un universitaire, il se doit de donner ses sources.
C'est vraiment une démarche
et il doit permettre
là.
Qu'on vérifie ses sources. Pour le critiquer, s'il a dit des bêtises, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises. Et donc moi, je donne toujours mes sources et je publie ces sources pour qu'il y ait une possibilité de vérification. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Gérard Mullier m'avait attaqué sur le premier ouvrage, sur la richesse des Mulliers, le tribunal lui avait donné tort parce que les informations étaient publiques et qu'il n'y avait pas de souci de ce côté-là.
Quoi. Et vrai.
Bien sûr, c'était des vrais. J'ai jamais publié une seule information confidentielle de ma vie. À quoi ça sert de toute façon ?
Alors tu faisais allusion à la démarche de l'universitaire, tu voulais l'opposer à la démarche du journaliste qui de temps en temps peut diffuser des informations sinon fausses, disons, complètement occultes.
Le journaliste, c'est quelqu'un de très particulier. Je ne devrais pas vous dire ça, puisque je m'adresse aussi à des journalistes directement ici. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde la manière dont fonctionnent les journaux, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, les journaux sont tous contrôlés par ces grands groupes.
Hein. On en reparlera en détail après.
Donc, quand on fait la liste des journaux, il n'y a pas beaucoup de journaux qui sont indépendants financièrement de ces groupes.
Donc, on les citera quand même, il y en a quelques-uns.
On peut les citer, il n'y a pas de souci. Et donc, quand on regarde le fonctionnement de ces journalistes, généralement, on a déjà un premier écrémage qui est fait par les facs auxquelles ils appartiennent. Vous regardez les grands commentateurs politiques, on parlait de Sciences Po.
Ils ont tous fait Sciences Po.
Ils ont passé très souvent par Sciences Po et les écoles de journalisme, qui sont des écoles de formatage, où ils répètent tous la même chose, et des choses fausses, souvent.
Ou disons au service d'une.
Alors, l'écrémage se fait tout à fait simplement, je veux dire. C'est une thèse bien connue de Chomsky qui indique que quand vous travaillez pour un média et que le média, lui, il est obligé de vendre sa pub, etc., par définition, à ses fortunes.
Et puis que l'actionnaire du média.
On ne va pas commencer à cracher dans la soupe et dire celui-là. Alors, il le fera peut-être une fois, mais pas deux. Il sera un petit peu marginalisé, il sera amené à partir, etc. Donc on ne garde progressivement, au fur et à mesure que l'on avance dans la hiérarchie des journaux, ou des médias télévisés.
Des valeurs sûres.
On garde des valeurs sûres.
Des chiens de garde de qualité.
Voilà. Et donc, ces gens-là font tous la même chose. En plus, ils se côtoient dans des cercles. Donc là, je signale par exemple qu'il existe trois cercles assez intéressants. Celui qui me concerne, c'est le cercle des économistes, où on trouve toute la pensée libérale dont je parlais tout à l'heure. Et on ne trouve que ça.
Avec les célèbres experts.
Voilà, les experts.
Qu'on voit à longueur d'antenne et de pages.
Absolument, ce sont tous ces gens qui disent tous la même chose, par exemple sur la dette, sur...
Il y en a un que t'as épinglé, j'ai noté, c'est le célèbre Godet, là, le petit barbichu.
Ah ben Godet, oui, non mais c'était...
Qui a l'air d'un bon père de famille.
Ah oui, non mais c'est bien, mais lui est resté au XVIIIe siècle, hein, il est resté à l'époque...
mais il répète toujours la même chose.
C'est Ricardo, mais bon, je veux dire, il faudrait qu'il change un petit peu de musique, parce que bon... Son truc était encore valable, effectivement, à l'époque de Malthus, quand il n'y avait pas encore tout le progrès technique qui faisait qu'on pouvait faire autre chose que de dire c'est le nombre de la population qui est quelque chose d'important. Bon, il y a Godet, il n'y a pas que
Attali.
Lui. Alors, Attali, grandiose. Ah. Attali, quand on regarde Attali, il sort un rapport pour Sarkozy, déjà bizarre, hein, comme relation Attali-Sarkozy.
Ouais, c'est bizarre. Hein.
Bizarre, pas tellement bizarre, parce qu'en fait, ils appartiennent tous à ces mêmes grands corps qui ont fait l'ENA, etc. Et qu'est-ce qui sort comme rapport pour Sarkozy ? Il sort un rapport sur, mais il faut libéraliser la finance en France, il faut faire le modèle anglo-saxon et notamment le modèle londonien, il faut que Paris devienne une place financière super géniale, etc. Il faut des traders, etc. etc.
C'est un bon modèle libéral, ça, c'est un bon
système. Le modèle ultra-libéral. Parfait. Son rapport, que j'ai cité plusieurs fois, montre que c'est un rapport ultra-libéral où on voulait appliquer les règles de la finance qui faisait à cette époque-là Flores un peu partout dans le monde, avant la crise de 2008. 2008 arrive la crise, Attali. Oh. La veste, elle a plus vite bougé que son écriture, hein, là, si je puis dire.
Il l'avait pas vu arriver, bien sûr.
Bah, il l'avait pas vu arriver parce que bah, il n'est pas marxiste du tout, lui. Hein, il est tout sauf marxiste.
Pourtant, il a écrit un bouquin sur Marx.
Oui, non, mais ça, je l'ai bien vu. Il y a nombreuses années, il a dû oublier à peu près tout ce qu'il avait lu. Hein, donc... Par rapport à ça, quand on regarde son petit pensum sur la crise, mais on tombe sur le cul, excusez-moi de l'expression, mais il dit exactement le contraire de ce qu'il disait 6 mois plus tôt.
C'est la force de tous les experts, ça.
Non, un expert, c'est un vrai expert.
ce qu'on voit à longueur de
studio. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est bien ça que je critique. Même chose pour Mac. Alain Mac, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier, je veux dire. Il dit des bêtises à longueur de page. Il ne connaît rien du tout à ce qu'il écrit. D'ailleurs, j'ai cité un passage de Bérou.
Ah oui, là c'est, moi, je veux dire, ça m'a fait beaucoup rire. Je ne pensais pas que M. Bérou, dont on parle assez peu sur Radio Campus Lille, que vous écoutez à l'heure actuelle, et écrivait des choses pareilles. Ah c'est oui, superbe. Tous les explorateurs vous le diront, il y a deux sortes de boussoles rassurantes, ouais. Celles rares qui ne se trompent jamais, et tout aussi précieuses, les boussoles qui se trompent absolument toujours, et qui, elles, quelles que soient les évidences, vous désignent obstinément et avec assurance le sud. Le maître étalon des méridianopètes, c'est à la main. Voilà. C'est donc de François Bérou, mais le texte, il est très très bien. On n'a pas l'habitude de complimenter M. Bérou.
Ah non, mais moi non plus, mais c'est...
Page 326.
Absolument.
Il est excellent.
Il a fait un texte excellent pour répondre à la critique que Mac faisait de son livre, qu'il n'avait même pas lu d'ailleurs, oui, probablement. Donc ce sont des spécialistes. Lui, il a écrit sur Keynes, il n'a jamais compris rien du tout à Keynes. Il a écrit sur un livre d'histoire de la pensée, manifestement, quand il a relu Marx. Je ne sais pas ce qu'il a lu de Marx, mais bon, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est encore quelqu'un qui confond le travail avec la valeur travail et le calcul de la valeur travail par le temps de travail avec d'autres choses, quoi. Donc, je veux dire, bon, qu'on sache qu'un homme politique comme Sarkozy fasse ça sur la valeur travail, bon, c'est son boulot, c'est de l'idéologie, etc. Donc, il ne sait même pas ce que c'est que travailler, de toute façon, donc, c'est pas grave. Qui fasse croire que Marx ait dit ça sur le travail, mais c'est une hypocrisie monstrueuse.
Sabotage.
C'est tout à fait quelque chose qui est...
Sabotage.
C'est incroyable. C'est, donc faire dire ça, même chose sur Keynes. Il dit que Keynes, c'est un méchant étatiste, etc. Mais Keynes n'a jamais dit ça. Keynes est un libéral, et il dit bien dans sa thèse que l'État doit intervenir quand effectivement le système fonctionne mal. Quand il y a beaucoup de chômage, etc. Et donc, c'est toutes les mesures keynésiennes que l'on connaît.
Dans l'histoire, aux États-Unis, ça s'est passé.
Bien évidemment. Et donc, ensuite, il dit bien, et on l'a bien entendu à la fin du bouquin, mais généralement, Mac va jamais jusque plus loin que la page 3, hein, donc il ne peut pas aller jusque la fin du gros bouquin, quand même, Keynes. À la fin de son livre, il dit tranquillement que toutes les mesures qu'il préconise pour l'intervention de l'État dans l'économie sont des mesures qui sont indispensables quand il y a crise, donc insuffisance de demande. On va bien connaître ça maintenant un peu partout avec ce qui se passe. C'est indispensable pour l'État, mais ensuite on revient à l'économie de marché. Donc il est un pur libéral, Keynes. Il a rien compris à Keynes. Bon. Quand on voit un petit peu ici comment ça se passe, c'est exactement la même chose. Les crises qui sont en train de naître en Grèce, c'est bien installé, en Espagne, en Italie, etc.
En France.
Le modèle qu'on veut appliquer en France, mais c'est un modèle catastrophique.
C'est du copier-coller.
Ben oui, ce sont des copier-coller. C'est pratiquement ce que faisait le FMI dans les pays d'Afrique il y a 20 à 30 ans. Et le FMI avait toujours...
Il avait démarré avec la Jamaïque, hein, le FMI.
Ah, oui, tout à fait. Et donc, le FMI avait toujours le même modèle. Moi, je suis intervenu un petit peu en Afrique, mes côtés aux Nations Unies, on nous dit, où on essaie de contrer un tout petit peu ces plans que proposait le FMI, la Banque mondiale. On a trouvé des choses qui sont quand même assez énormes. On a vu un plan d'ajustement structurel, comme on dit. Donc, où c'est moins d'État, privatisation, etc. Donc, tout ce qu'on connaît, quoi. Mmh,
l'Argentine.
Oui, l'Argentine, etc. Il y a 10 ans. On a trouvé en Afrique des plans d'ajustement structurel où ils n'avaient même pas eu le courage de changer de nom en changeant de pays. C'est quand même incroyable. C'était des copier-coller du plan et ils appliquaient ça partout avec une bonne vieille recette.
Alors c'est le même consultant qui...
Ça devait être exactement le même consultant.
Il doit être dans mon entreprise à l'heure actuelle.
Ça doit être ça, oui.
Encore une question de Béotien concernant l'économie. Est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets ?
Tout à fait.
Donc c'est une science, l'économie ?
C'est pas une science.
Ah bon.
Non, c'est pas une science parce qu'on n'est pas des robots. Et j'explique ça à la fin du bouquin sur la théorie de la valeur que j'expose, parce que, bien évidemment, si c'était une science, un, ça se saurait. deux, on n'aurait pas les crises à répétition qu'on connaît maintenant.
Un bon scientifique, quand il a fait une expérience.
Ben oui, un bon scientifique qui fait une expérience, il s'aperçoit quand même que son
modèle... Il a vérifié une deuxième fois.
Son modèle fonctionne pas tout à fait comme il pense. Mais nos libéraux, ils restent exactement sur les mêmes modèles. Ce que j'ai mis également, et que c'est un travail que je vois à Ruffin, qui travaille avec Mermet. Ruffin a fait un très bon bouquin sur la crise et sur le protectionnisme. Et il expliquait que Maurice Allais, qui est un prix Nobel d'économie, le seul prix Nobel d'économie qu'on ait eu en France, libéral, pas plus libéral que lui, faisait l'éloge du protectionnisme à l'échelle de l'Europe. Pour effectivement dire, on ne peut pas décemment avoir une concurrence... qui est une concurrence chinoise, indienne, etc., sur le coût du travail, et que le modèle libéral, quand il est appliqué, a une tendance fâcheuse de réduire le coût du travail au même niveau que le plus faible coût du travail qu'on a au niveau mondial. Ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde au niveau du salaire chinois. C'est ça la compétitivité. C'est ça que cherche Mme Merkel, par exemple.
C'est ce qu'on nous entend.
Elle est en train d'appauvrir une grande partie de la population. En France, on a déjà les effets sur l'appauvrissement de la population.
C'est facile à constater.
C'est tout à fait facile à constater.
Et la technique dans les entreprises, par exemple, celle pour laquelle je travaille, donc, c'est de demander aux sous-traitants de baisser leur prix de 30%.
Mais bien sûr.
Donc ils n'ont qu'un seul choix, les sous-traitants.
Aller ailleurs.
Voilà, aller ailleurs ou faire appel à des centres d'appel à l'étranger, en Inde.
Par exemple.
Je vous laisse respirer un peu et on se retrouve après pour toujours, je vous le rappelle, parler de cet ouvrage de Benoît Boussemard. La collusion des pouvoirs face à la crise, c'est le thème de ce magazine de Campus. Et le bouquin est aux éditions Étain-Puis. Thank you. magazine de Radio Campus consacré à l'économie autour d'un ouvrage « La collusion des pouvoirs face à la crise », auteur Benoît Boussemard, édition Est un puits. La collusion des pouvoirs face à la crise. Alors on parle beaucoup, et à juste titre, de ceux qui se goinfrent, de ceux qui, comment dire, qui commettent beaucoup de... Enfin, qui gagnent beaucoup de pognon. Mais ça, j'allais dire, dans notre société profondément égoïste et immorale, a priori, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux gens de gagner du pognon et de s'en foutre plein les poches? Pourquoi c'est dangereux, ils sont dangereux, ces gens-là?
Pour répondre simplement, d'abord, c'est pas immoral, c'est amoral.
C'est amoral, oui.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas de morale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et que, bien évidemment, le système capitaliste fonctionne comme ça. C'est un système d'exploitation du travail et de la force de travail, plus exactement.
Et depuis longtemps.
Et depuis le XVIIIe siècle. Quand on regarde un petit peu les raisonnements que l'on entend partout, d'ailleurs, en ce moment, sur il faut serrer la ceinture, il faut sacrifier pour sauver le système, etc. Mais c'est des arguments qu'on entendait du patronat du XVIIIe siècle. Il faisait travailler les femmes, les enfants, etc. Il faisait travailler les gens 15 heures par jour, les enfants 8 heures par jour.
Et le cas échéant, il collaborait avec l'occupant.
Absolument. Et donc, il y avait des tas de choses comme ça qui se faisaient. Et on était dans un système d'exploitation où, surtout, il ne fallait pas diminuer d'une seule petite heure le temps de travail. Vous ne comprenez pas, passer de 15 heures à 14 heures, donner des congés payés à des ouvriers, avoir une protection sociale, il n'y en avait pas. Ce sont des conquêtes qui ont été faites par les salariés à chaque fois qu'ils se sont battus pour les avoir. Toujours.
D'où le leitmotiv, toujours depuis 10 ans, la loi des 35 heures, les 35 heures.
Mais bien évidemment, ça leur reste travers de la gorge, ils ont bien raison, mais moi je pense qu'il faudrait passer rapidement à 30. Mmh. Parce que, effectivement, la division du travail, c'est le partage du travail. Et s'il n'y a pas de travail pour tout le monde, on est quand même à 4,5 millions de chômeurs. Je donne les chiffres du chômage dans le livre. Quand on regarde l'évolution du chômage depuis 5 ans, c'est une catastrophe. Et quand on dit que ces feignants de chômeurs, en plus, ils touchent des allocations, mais c'est encore un autre mensonge éhonté. On a fait les petits calculs d'abord sur les 4,5 millions de chômeurs. Il y en a 2,5 millions qui touchent pratiquement rien. Et les autres, ils touchent en moyenne à peu près 700-800 euros par mois. Vous vivez comment avec ça?
Ça, c'est la réalité de la France de 2012.
Ça, c'est la réalité de la France de 2012. Et encore un certain nombre de statistiques sur le taux de pauvreté, ce sont des statistiques publiées fin 2011 et qui sont limitées à 2009. Et on s'aperçoit déjà que sous Sarkozy, le taux de pauvreté a augmenté de façon considérable. Il y a plus de 8 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté à 60%.
C'est ça la conséquence du système.
Et bien évidemment, c'est ça la conséquence. Mmh. On ne peut pas gagner des sommes d'argent considérables d'un côté sans qu'il n'y ait pas d'autres qui perdent dans le système.
Le pognon, il vient de
les calculs qui sont présentés sur les sociétés du CAC 40, on voit très bien, on a des taux de profit moyens pour les sociétés du CAC 40 qui sont de 15% jusque 2008. 15%. C'est pas ça que vous touchez à la caisse d'épargne. Hein. Et en plus, à la caisse d'épargne, on vous a encore serré la vis en disant mais il n'y aura pas d'augmentation de taux, etc. Malgré l'évolution de l'inflation.
Et ces capitaux-là, ces bénéfices-là, ne participent pas à la protection sociale?
Ah ben certainement pas, puisqu'ils sont tranquillement placés à l'écart, où on a toutes les niches fiscales coupées, etc., qui permettent d'échapper à tout ça. Petit calcul tout simple.
Quand on parle du coût du travail, on ne parle pas du coût du capital, en fait.
Ah ben jamais. Il n'y a pas de coût de capital, par définition. C'est la manne qui permet à tout le monde de travailler. Alors, soyez contents, vous bossez, les gens.
Alors, la manne qui permet de travailler. Dans beaucoup d'entreprises, il y a un intéressement. Ouais. Les salariés sont invités à verser une partie de leur salaire à acheter des actions de la société, ouais, ou alors à le prêter généreusement à leur patron. Moi, je pense que le salarié fournit de plus en plus le capital directement à son employeur. Enfin, dans certaines sociétés régionales comme Auchan.
Très, très particulière.
Avec Val Auchan.
On est bien d'accord. Mais là encore, c'est assez amusant parce que on avait eu l'exemple avec Renault. Renault, au moment de sa privatisation, il y avait des salariés qui avaient acheté des titres, y compris les salariés belges.
France Télécom aussi.
Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Belges se sont virés eux-mêmes de Billboard. Hein.
Oui, ben voilà, c'est ça.
Parce que la logique, c'est...
Faut que ça rapporte aux actionnaires.
Évidemment. Donc, je me vire comme salarié en étant actionnaire, c'est incompréhensible. Je veux dire, si on
ils doivent bien se marier en face.
Bah oui, ils s'amusent. Ils savent très très bien que c'est eux qui ont gagné la lutte des classes pour l'instant.
Ça, c'est Warren Buffett. Ça.
C'est Warren Buffett qui disait ça, il avait raison aussi. Je veux dire, donc, quand on dit qu'il n'y a pas de lutte des classes, mais elle continue de plus belle, je veux dire, la lutte des classes.
Hein, on est en plein dedans, là.
On est en plein dedans. Madame Bettencourt, avec Tétis, elle a gagné 969 millions d'euros sur 7 ans.
Cool. On ne s'en rend même pas compte.
Le groupe Arnaud, 753 millions. Dassault, 829 millions d'euros.
Perso, ouais. Là, on parle
leur des perso. Société on parle des... personnelle, d'accord. Bon, Enfin, il faut quand même pas charrier. Quand on regarde Bernard Arnault, en plus de ses dividendes qui sont là, il touche 4 millions d'euros de salaire. Et c'est compris dans la moyenne de ses salariés, bien entendu. Ce qui fait qu'on a une moyenne déjà très faible pour ses salariés, mais lui, dedans, il a 4 millions d'euros. En plus, il embauche sa fille, il embauche son fils. Je veux dire, on arrête. Il se touche des stock options.
Mais tout ça, c'est parfaitement légal.
C'est tout à fait légal. Mais alors, ce sont tous des éléments qui font que ben, l'argent ne va pas chez les salariés, parce qu'il faut bien le prendre quelque part, cet argent.
Ce qui va dans...
Et quand les gens n'ont pas l'argent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on assiste à quoi? Ben, à la crise, parce qu'en ce moment, les gens tirent de plus en plus la langue, ils ne peuvent pas acheter.
Plus de consommation. Ouais.
Et c'est là qu'ils vont commencer à avoir des problèmes, parce que quand vous êtes Arnault et que vous avez Carrefour et que ben, les gens n'ont plus les moyens d'acheter trop et qu'ils vont au plus bas, le hard discount, s'il a fait fortune un petit peu ces dernières années, c'est bien à cause de ça. C'est parce que les gens n'avaient pas suffisamment d'argent.
Ça marche au premier coup, au deuxième coup, ça ne marche plus.
Ah, bien entendu, ça ne marche plus. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire quoi? Ben, vous allez en Chine. On délocalise comme tout à l'heure. Sauf que vous détruisez d'autres trucs qui sont beaucoup plus importants encore. La manière de vivre, les modes de consommation. Par exemple, quand vous incitez les gens à produire à des prix de plus en plus bas, ben, vous en avez pour votre argent, par définition.
Bien sûr.
Quand vous achetez un textile chinois à quelques euros, vous avez pour vos quelques euros. D'accord ? Quand on a des fauteuils qui étaient achetés par Conforama et qui avaient des produits toxiques dedans, vous en aviez pour vos sous. Ça conservait au moins. Ça conservait pas tellement la peau des gens, mais bon, ça conservait le fauteuil. Donc, il faut savoir ce qu'on achète. Et tout ça, c'est lié, bien évidemment, au fait qu'il n'y a que le profit qui compte. Quand on regarde le nombre de licenciements que ces groupes ont fait, c'est quand même assez considérable. À chaque fois que Pinault vendait quelque chose... Pinault, il licenciait avant pour rendre beaucoup plus cher la société qu'il mettait sur le marché.
Et Arnault, quand il a racheté Dior et
Arnault,
Agache,
lui, c'était, quand il a racheté le groupe Agache Pinault, c'était...
Grâce à l'État socialiste de l'époque.
Absolument. Et donc là, il a eu tout ce qu'il voulait. Il y avait la pépite Dior, et à partir de la pépite Dior...
Et il a licencié de partout.
Bah, c'est simple. Il ne reste plus un seul salarié du groupe Agache Pinault tel qu'il était à ce moment-là. Il a fait ça avec un grand admirateur polytechnicien comme lui... qui était à l'époque le directeur de la lignière de Roubaix, d'Hervelois. Hein, donc on retrouve toujours les mêmes dans les mêmes mauvais coups, je veux dire. Il n'y a pas de secret à ça.
Alors que quand même les socialistes savaient à qui ils avaient affaire, parce qu'ils s'étaient barrés aux États-Unis en 80.
Absolument. D'ailleurs, je termine avec son départ ici en 2012, après la victoire de la gauche.
La semaine prochaine.
Mais il ne va pas prendre le même avion, parce que là, il a acheté un nouvel avion, mais qui est bien plus efficace et avec un plus long rayon d'action. Hein, et il peut même... Donc, il y a des petites choses rigolotes que je dis comme ça.
Il nous reste une dizaine de minutes. Il y a un sujet qu'il faut absolument pas, qu'il faut dont on parle, c'est que face à ça, bon, ben là, on vient de faire un constat que c'est relativement facile à comprendre, même pour des gens peu initiés dans ces domaines-là. Mais qu'est-ce qu'il nous reste, nous, pauvres salariés, pauvres travailleurs, pour se défendre?
Ben, les salariés n'ont que leur lutte pour se défendre. Et je veux dire, dans ce domaine-là, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut se défendre, il faut se défendre sur le niveau de salaire. Moi, je ne suis pas du tout pour l'achat d'actions qui favorise en définitive le fait que le capitalisme...
Ça, c'est un jeu contre.
Bah oui, complètement. On ne peut pas s'exploiter soi-même, c'est une bêtise. Bon, donc ça, on peut le penser comme ça, mais je veux dire, s'exploiter soi-même, c'est bien, mais qu'on bosse pour soi, puis c'est tout, quoi. Donc on est un petit artisan, qu'on bosse 15 heures par jour, c'est son problème à soi, c'est pas le problème, machin. Bon. Donc ça, c'est une exception. Ensuite, il y a tous ces systèmes d'intéressement, de participation. Les gens se font rouler dans la farine comme c'est pas possible, je veux dire. Parce que là, pour le coup, ils vont tirer vraiment la langue quand ils seront à la retraite. Tous ces éléments-là ne sont pas calculés dans les retraites. Or, on justifie...
Et ça risque pas de s'améliorer.
Et ça risque pas de s'améliorer, parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous avez peut-être des bas salaires... Contentez-vous de ces bas salaires, d'accord, vous êtes pratiquement tous au
SMIC
maintenant.
Mais on vous donne des compléments.
Alors vous n'allez quand même pas vous plaindre, vous avez un super intéressement, vous avez une super participation. Ça correspond à 13 mois de SMIC ou 14 mois de SMIC ou 15 mois de SMIC. Ah bah sympa, 15 mois de SMIC, ça fait pas grand-chose. Hein. Quand on regarde le salaire de 4 millions d'euros d'Arnault à côté, je veux dire, bon, même chose pour Dassault, même chose pour Bolloré, etc. Bon, donc, il faut s'interroger sur le fait que, bon, d'abord, c'est sur le salaire qu'on doit gagner sa vie. Et on doit la gagner correctement.
C'est la contrepartie de la force de travail.
C'est la contrepartie de la force de travail. Et on sait très bien que tout ce qui ne va pas en salaire, ça va
ça
en profit.
En spéculation.
Il n'y a pas de secret.
Et d'ailleurs, dans les dernières années, ça on l'entend quand même régulièrement dans la campagne politique qu'on vient de connaître, il y a eu beaucoup de gens qui ont, à gauche ou plus à gauche, qui ont dit qu'effectivement le transfert de, je ne sais plus, de 10% qui a basculé de la part du travail, de la part du salaire, à la part du capital.
On a 10% qui sont passés directement du salaire vers le profit. Directement. Et quand on dit que les gens sont actionnaires, c'est faux, hein. Les trois quarts des gens ont des petits paquets d'actions de rien du tout, et c'est pas là-dessus qu'ils gagnent de l'argent, parce que les banquiers, ils vous prennent de l'argent sur l'achat des titres, sur la vente des titres, et en général, les plus-values, c'est pas vous qui les faites, hein.
Et
c'est les banquiers qui
voir.
Les font derrière, parce que eux, ils sont sur les bons coups, parce qu'ils connaissent les bons coups d'avance. D'accord ? Je regardais encore des publications de l'AMF récemment, de l'Autorité des marchés financiers. Comme par hasard, en ce moment, la Société Générale, oh, elle se plaint de son trader, elle vient d'acheter 7% du capital de Carrefour. Mais c'est quoi ça ?
Donc les banquiers ne seraient pas des philanthropes ?
Bah, je connais peu de banquiers philanthropes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils spéculent à qui mieux et qu'ils continuent à spéculer, trader ou pas trader.
Et pourquoi on nationalise pas la banque ?
Ah ben, moi je pense que de toute façon, au moins deux choses à faire pour les banquiers. Un, séparer les banques de dépôt des banques d'affaires. Les banques d'affaires, elles spéculent si elles veulent, c'est pour leurs pommes. Elles sont tuées parce qu'il y a de mauvaises spéculations.
C'est des joueurs.
C'est des joueurs, on les laisse faire joujou de leur côté, on s'en fout. Ça, c'est pas gênant. Par contre, ce qui est très gênant, c'est quand la spéculation, elle a des impacts sur le domaine de l'économie réelle. Et là, c'est ce qu'on a connu depuis maintenant 7-8 ans.
Ils jouent avec notre pognon.
Voilà, sur l'Europe, avec la crise grecque, avec la crise espagnole, avec la crise qu'on a eue en Islande, qu'on a eue également en Irlande. Quand on regarde cette crise, quelle est la nature de la crise, profondément ? C'est le fait que des gens ont commencé à spéculer sur des valeurs qu'on voulait nous imposer à nous. Et c'est pour ça que je faisais une analyse de la valeur. Quand vous spéculez sur des valeurs qui sont les valeurs des maisons aux États-Unis, ce qui a entraîné la valeur des subprimes, et quand vous dites le marché de l'immobilier monte. Ah bon ? Ça monte. Mais c'est quoi la valeur de la maison ? Et quand vous dites, moi je vais pouvoir emprunter à ce taux-là, et donc un taux variable qui va vous emmener à des remboursements que vous ne pourrez pas assumer, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites éclater la pyramide. Tous les banquiers qui ont spéculé là-dessus, parce qu'eux aussi prêtaient de l'argent à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'effondrent à leur tour. Alors, deux choses, une, ou l'État intervient ou il n'intervient pas. Ah là, l'État, il peut intervenir. Ah oui, ça c'est bien. On ne veut pas d'État, mais quand on est mal, l'État intervient. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prête de l'argent aux banques pour s'en sortir.
Et ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps.
Ça, on l'a bien connu et on l'a bien vu. Et quand les banques ont eu leur argent, qu'est-ce qu'elles feront ? Elles recommencent à spéculer en plus. Elles spéculent sur n'importe quoi.
Donc nationaliser les banques.
Ah bah oui, nationaliser les banques, ça serait pas une mauvaise affaire. Et nationaliser un certain nombre de ces grandes fortunes. Quand vous prenez un groupe comme Dreyfus, dont on a peu parlé, c'est un spéculateur majeur sur les matières premières internationales. Quand on parle du prix du blé, quand on parle du prix du maïs, du sucre, du soja, etc., c'est un des plus gros spéculateurs mondiaux. D'accord ? Et lui, bien entendu, il est tranquille. Il est mort maintenant, mais son épouse, tranquillement, vit ses rentes avec une société qui est aux Pays-Bas, d'autres sociétés qui ensuite, il continue à jouer avec l'Olympique de Marseille. Une des caractéristiques de ces gens-là, c'est qu'ils ont tous des danseuses. Dans le sport.
La culture.
La culture, etc.
Quoique maintenant, ils se sont fait doubler par le Qatar.
Ouais, mais le Qatar, c'est particulier.
Qatar Saint-Germain.
Ouais, Paris Saint-Germain peut-être, mais bon, c'était Colony avant qui était au Paris Saint-Germain. Hein. Et donc Colony, il a pris aussi quelques claques assez retentissantes, notamment sur des investissements qu'il avait faits. La Charrière, par exemple, il a récupéré, il est encore chez Fitch, mais il a baissé sa participation dans Fitch et il vient de racheter le groupe de casino, comment ça s'appelle, qui vient d'investir à Lille.
Barrière.
Le groupe Barrière. Et donc ils viennent racheter une grosse partie de Barrière. Il se diversifie vers l'amusement du peuple. C'est lui qui gère les salles Zénith. Maintenant, il a pris une participation dans la gestion des salles Zénith. Il a pris des participations dans RMC, dans BFM, etc. Quand on regarde TF1, la presse gratuite, important la presse gratuite,
Bolloré,
ça façonne très fortement la manière des gens, parce que vous n'avez rien du tout dans cette presse gratuite, pratiquement.
Si, c'est l'idéologie.
Ouais, tout à fait. C'est des articles pré-mâchés, etc., où on n'a rien dedans. Qui est-ce qui contrôle la presse gratuite directe ? C'est Bolloré.
Ils se sont illustrés, excuse-moi une petite parenthèse, ouais. Métro s'est illustré la semaine dernière, la veille du premier tour, en faisant la photo de Mélenchon avec Hafez al-Assad.
Et c'est qui Métro ?
C'est Bolloré, si je me trompe.
Direct, c'est Bolloré. Métro, c'est TF1. D'accord ? Donc, ils sont tous dedans. Les contrôles qu'on disait tout à l'heure des sociétés de sondage, c'est eux aussi. Madame la présidente du CNPF contrôle Ipsos. D'accord ? Et les autres contrôlent les grands médias.
T'as dit le CNPF, c'est le MEDEF. Hein.
Ouais, MEDEF, oui. Notre patronne des patronnes.
Il te reste 2 minutes pour dire maintenant des conseils concrets aux salariés, à ceux qui ont leur force de travail à vendre.
Conseils concrets aux salariés, luttez pour préserver vos avantages qu'on a acquis pendant des décennies. On est en train de faire exactement le contraire. Ça fait 5 ans qu'on détricote des avantages fondamentaux dans le domaine du droit du travail, dans le domaine des rémunérations, dans le domaine des conditions de travail. S'ils ne se révoltent pas contre ça, ça va se terminer très mal. Voter correctement, c'est un bon moyen de faire quelque chose pour débuter. Et ensuite, on passe aux élections législatives et là, les choses sérieuses vont commencer. Voilà.
Bon, écoute, Benoît, je crois qu'on aura encore l'occasion de se rencontrer parce que là, dans l'actualité qui nous attend, on se retrouvera. Je rappelle le titre de ton ouvrage, ça s'appelle « La collusion des pouvoirs face à la crise ». Les grandes fortunes, les banquiers, les politiciens, sans oublier les médias. C'est un ouvrage fort intéressant, très très chaud d'actualité. Ça paraît aux éditions Étain-Puis. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis à bientôt, peut-être à après quelques résultats d'échéances électorales qu'on
le
attend tous.
Le taux est dans 53%, avec 47%.
Avec vous. Ah, tu vous vends les paris?
Ah oui, non. Notez. Notez.
Allez, 330. Restez fidèles au 106,6, c'est Radio Campus Lille, libre, associative, non commerciale et sans publicité.
Super.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.